VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Le Monde aujourd'hui, édition du lundi 18 janvier 2016, en direct de Washington. Tatiana Mosso et Anne Albertson, voici les titres de cette édition.
Au Burkina Faso, après les attaques sanglantes de vendredi qui ont fait au moins 29 morts, une enquête a été ouverte dans la capitale, Ouagadougou.
Au Mali, la MINUSMA a un nouveau chef, Mahamat Saleh Anadif, ex-ministre tchadien des Affaires étrangères. Il a pris ses fonctions.
Accord historique sur le nucléaire en Iran, les présidents américains et iraniens ont salué l'entrée en vigueur des accords après 37 ans de sanctions.
Aux États-Unis, le débat des démocrates dans la course à la Maison-Blanche, dernière ligne droite avant les primaires du 1er février avec le caucus de l'Iowa.
Et ne manquez pas la Minute Éco ainsi que les sports, mais d'abord le journal. Le Burkina Faso a été frappé au cœur de sa capitale par des attaques terroristes. Dans ses premières déclarations, le président Roch Kaboré a appelé ses concitoyens à rester courageux. Parallèlement, l'identification des victimes avance. Sur les 29 morts, 22 ont été identifiés, selon un communiqué du procureur du Faso. À Ouagadougou, Soumana Onogo.
Dans son message à la nation le lendemain des attaques perpétrées par des terroristes en plein cœur de Ouagadougou, le président du Faso a invité les Burkinabés à se mobiliser. On écoute le président Roch Marc Christian Kaboré.
Face à ces terroristes et à leurs actes ignobles, nous devons nous mobiliser pour apporter la riposte appropriée afin de les mettre hors d'état de nuire. Ma conviction est établie que dans l'unité et la cohésion nationale, nous sortirons victorieux de cette guerre.
Et pour manifester la solidarité du peuple malien au Burkinabé attristé, le premier ministre du Mali est arrivé ce dimanche à Ouagadougou. Pour lui, il faut mutualiser les efforts pour venir à bout du terrorisme. Suivons le premier ministre Modibo Keïta.
Nous avons des structures de concertation entre nos deux pays, notamment la Grande Commission de coopération. Il faudrait donc une coopération transfrontalière, non seulement entre les autorités administratives, mais entre nos forces de défense et de sécurité. Voilà donc ce que nous devons faire ensemble en rapport avec les autres pays de l'espace sahélien.
Sur le plan de l'enquête judiciaire, les choses avancent vite, ce qui a permis au procureur du Faso de donner la liste et les nationalités de 22 des 29 victimes. En parcourant cette liste, on retrouve des noms à consonance musulmane et des noms à consonance chrétienne. Zoumana Onogo, Ouagadougou, VOA Afrique.
Mahamat Saleh Anadif, ex-ministre tchadien des Affaires étrangères, qui a aussi occupé de hautes fonctions pour l'Union africaine, est arrivé vendredi à Bamako, où il a pris ses fonctions de chef de la MINUSMA, la mission de l'ONU au Mali, en remplacement du Tunisien Mondji Hamdi. Les précisions de John Lyndon.
Nommé le 23 décembre, représentant spécial du secrétaire général de l'ONU Ban Ki-moon et chef de la MINUSMA, Mahamat Saleh, 59 ans, succède donc à Mondji Hamdi, qui était à ce poste depuis janvier 2015. Sous le mandat de M. Hamdi, les négociations conduites à Alger ont abouti à la conclusion de l'accord de paix, signé d'abord en mai 2015 par le camp gouvernemental, puis en juin 2015 par l'ex-rébellion à dominante Touareg. Mais les attaques djihadistes se sont parallèlement intensifiées sur le terrain, dans le nord du pays, puis depuis 2015, vers le centre et le sud. Des groupes islamistes liés à Al-Qaïda ont contrôlé le nord du Mali de fin mars, début avril 2012, jusqu'au déclenchement en janvier 2013 d'une intervention militaire internationale qui se poursuit actuellement. Avec 1151 militaires et policiers sur un effectif total de près de 11 700 à la mi-décembre 2015, le contingent tchadien est le troisième en nombre derrière ceux du Burkina Faso, 1742, et du Bangladesh, 1725. La MINUSMA est déployée depuis juillet 2013.
La mission de paix conjointe ONU-Union africaine au Darfour a exprimé dimanche sa profonde inquiétude face à l'intensification des combats au Soudan entre forces gouvernementales et rebelles dans la région du Darfour, en guerre depuis 2003. Des membres de la mission ont indiqué que 5 bombes étaient tombées au nord-est de leur base, ajoute le communiqué, précisant que les commerçants de la ville de Nertiti ont fermé leurs boutiques par peur de futures attaques.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Les présidents américains et iraniens ont salué l'entrée en vigueur de l'accord nucléaire historique avec Téhéran. Une bonne journée, dit Barack Obama, tandis qu'Hassan Rouhani évoque l'ouverture d'une nouvelle page entre l'Iran et la communauté internationale. Jean-Roger Bion nous en dit plus.
Dans une déclaration faite à la Maison-Blanche, le président Obama n'a pas minimisé les désaccords qui persistent entre les États-Unis et l'Iran. Il a notamment cité des violations des droits de l'homme ou encore le programme iranien de missiles balistiques. Cependant, il estime que les récents développements, notamment le respect par l'Iran de l'accord du 14 juillet favorisant son retour dans le concert des nations, sont porteurs d'espoir. Cela nous rappelle ce que nous pouvons réaliser quand notre leadership allie force et sagesse avec courage, détermination et patience. L'Amérique peut faire et a déjà fait de grandes choses quand nous œuvrons d'un commun accord. Barack Obama a appelé les Iraniens à tisser de nouveaux liens avec le monde. Pour sa part, le président iranien Hassan Rouhani a évoqué l'ouverture d'une nouvelle page entre l'Iran et la communauté internationale après la levée de la plupart des sanctions liées au programme nucléaire iranien. Juste après l'annonce du Trésor américain de nouvelles sanctions ciblées contre des Iraniens, le secrétaire d'État John Kerry avait une bonne nouvelle pour Téhéran, le remboursement à l'Iran de 1,7 milliard de dollars de dettes et d'intérêts remontant à la révolution islamique de 1979. En vertu de l'entrée en vigueur de l'accord du 14 juillet 2015, les 28 États membres de l'Union européenne et l'ONU doivent aussi lever les sanctions imposées à l'Iran à cause de son programme nucléaire.
Et le baril de Brent est tombé brièvement à moins de 28 dollars en Asie après la levée des sanctions occidentales contre l'Iran, ce qui va permettre au pays de reprendre ses exportations de brut. Le Trésor américain a annoncé de nouvelles sanctions liées au programme de missiles balistiques de l'Iran, toutefois, une mesure venant rappeler que la défiance persiste entre les deux nations. Et sachez par ailleurs que le Conseil de sécurité de l'ONU a retiré la banque iranienne SEPA et sa filiale internationale de la liste noire figurant dans les sanctions onusiennes.
Et le même jour de l'entrée en vigueur de l'accord sur le nucléaire iranien, Washington saluait la remise en liberté de plusieurs de ses ressortissants détenus en Iran. Trois des quatre Irano-Américains libérés samedi par Téhéran dans le cadre d'un échange contre des Iraniens poursuivis aux États-Unis sont arrivés en Allemagne hier soir pour rejoindre une base militaire américaine. Les détails avec Chérubin Dorsil.
Il s'agit du journaliste Jason Rezaian du Washington Post, du pasteur Saïd Abedini et de l'ex-marine Amir Hekmati. Rezaian avait été arrêté en juillet 2014 à son domicile de Téhéran, où il travaillait comme correspondant du quotidien depuis 2 ans. Le pasteur protestant Abedini avait été arrêté en septembre 2012 lors d'une visite en Iran. Amir Hekmati avait été arrêté en août 2011 durant une visite à sa grand-mère en Iran. Les trois ex-prisonniers étaient arrivés de Téhéran en fin d'après-midi hier à Genève à bord d'un avion de l'armée de l'air suisse. Le président Barack Obama a salué la libération des 5 Américains, disant que c'est une bonne journée pour l'Amérique quand ses enfants rejoignent leur famille après une telle épreuve. Outre les 3 arrivés en Allemagne, l'Iran a également libéré Nusratullah Khosravi dans le cadre de l'accord d'échange. Il a choisi de ne pas monter à bord du même avion que ses 3 camarades et n'a pas encore quitté Téhéran selon de hauts responsables américains. Le 5e, Matthew Trevithick, a été libéré hors accord dans un geste de bonne volonté et a déjà quitté l'Iran, toujours selon Washington.
Et le dossier iranien s'est invité dans le dernier débat des démocrates. L'ancienne secrétaire d'État Hillary Clinton contre le sénateur du Vermont Bernie Sanders et l'ancien gouverneur du Maryland Martin O'Malley sont aussi revenus sur les questions de l'assurance santé ou encore la réglementation des armes à feu. C'était là l'ultime rendez-vous avant le caucus de l'Iowa. Démarrage des primaires le 1er février qui, elles, permettront de choisir le candidat qui fera la course face aux républicains pour la Maison-Blanche.
Washington recherche 3 Américains enlevés en Irak. Un colonel de la police irakienne a confirmé, sous couvert d'anonymat, que 3 Américains et leur traducteur irakien avaient été enlevés dans le sud de Bagdad et que les forces irakiennes ont lancé une opération pour les retrouver. Les ravisseurs seraient des miliciens. Ils étaient habillés en uniforme militaire, a-t-il précisé. Au sujet des Américains, il a ajouté « Nous ne savons pas ce qu'ils faisaient comme métier ».
En Syrie, le groupe djihadiste État islamique a enlevé au moins 400 civils, dont des femmes et des enfants, après un assaut sur la ville de Deir ez-Zor, où il a été tué au moins 135 personnes, a rapporté l'Observatoire syrien des droits de l'homme. 40 civils, dont des enfants, ont péri dans des raids aériens sur Raqqa, le bastion du groupe djihadiste État islamique dans l'est de la Syrie, toujours selon cette organisation.
Au Yémen, un attentat suicide à la voiture piégée visant la résidence du chef de la police à Aden a fait au moins 10 morts, dont 8 civils, ont indiqué des responsables des services de sécurité. L'organisation Médecins sans frontières a annoncé avoir réussi à faire entrer 2 camions chargés d'aide médicale dans un quartier de la ville yéménite de Taez, situé dans le sud-ouest, assiégé par les rebelles chiites Houthis.
En Colombie, importante opération militaire pour secourir 15 pêcheurs détenus par l'ELN. Félicitations à l'armée colombienne. Nous allons maintenant poursuivre les responsables, a écrit le président colombien Juan Manuel Santos sur son compte Twitter. L'opération de secours a commencé dimanche à l'aube avec 200 hommes, des forces spéciales et 6 hélicoptères. Et on retrouve la Minute Éco avec Anastasie Tudiech.
Pour faire face à des besoins en produits pétroliers croissants, le Congo-Brazzaville prépare une nouvelle raffinerie. L'infrastructure sera le fruit d'un partenariat entre l'État et Bevern Group International Development, société californienne. Coût des travaux, 1 milliard de dollars, selon The Economist. Cette nouvelle raffinerie aura une capacité de production annuelle de 5 millions de tonnes et sera située à mi-chemin entre la capitale politique Brazzaville et Ouesso, au nord. La Côte d'Ivoire fait sa première incursion sur le marché de la finance islamique. Il aura fallu mobiliser 150 milliards de francs CFA pour son premier soukouk, émission d'obligations conformes aux règles de l'islam. Ces titres d'une maturité de 5 ans portent une marge de profit de 5,75%. La finance islamique interdit la prise d'intérêt. La Côte d'Ivoire est le deuxième État de l'UMOA à émettre un soukouk après le Sénégal qui a mobilisé 100 milliards de francs CFA il y a 2 ans. L'Afrique du Sud a, elle, levé 500 millions de dollars pour son premier soukouk en septembre 2014. Le Niger a signé un accord avec l'ICD pour la levée de 150 milliards de francs CFA d'ici à 2020. La brasserie britannique Sab Miller va devoir fermer au Soudan du Sud à cause du manque de devises étrangères. Depuis mi-décembre, la Banque centrale a annoncé le passage au régime de change flottant fixé par le marché, ce qui a entraîné une dévaluation de fait d'environ 84%. 237 emplois devraient être affectés directement, des milliers d'emplois indirectement.
Et maintenant notre page sport avec Élisée Ongpatine. Élisée.
Bonjour Tatiana.
Du football pour commencer, suite de la première journée des matchs de poule du championnat d'Afrique des Nations et place aujourd'hui aux rencontres du groupe C.
Oui, Tunisie, Guinée et Nigeria, Niger, sacré en 2011 devant l'Angola. Les aigles de Carthage partent avec les faveurs des pronostics devant le Sili qui a sa toute première participation dans cette compétition. En deuxième heure, le Nigeria et le Niger qui seront à leur deuxième participation vont essayer de bien entamer ce tournoi. Et puis suite et fin demain de cette première journée des matchs de poule et dans le groupe D, la Zambie sera face au Zimbabwe et le Mali jouera l'Ouganda.
Le coup d'envoi de cette compétition qui en est à sa 4e édition a eu lieu samedi dernier avec le bon départ du Rwanda, pays hôte.
Victoire 1-0 des Rwandais face à la Côte d'Ivoire qui prennent du coup la tête du groupe A puisque le second match a vu le Maroc et le Gabon se neutraliser 0-0. Prochaine rencontre Rwanda, Gabon et Maroc-Côte d'Ivoire.
Dans le groupe B, la RD Congo a commencé le tournoi de la plus belle des manières.
Effectivement opposé à l'Éthiopie, les hommes de Florent Ibenge se sont imposés sur le score sans appel de 3-0. La RD Congo prend donc la tête du groupe devant le Cameroun, vainqueur de l'Angola 1-0. Pour la prochaine journée, l'Angola va croiser l'Éthiopie et on va assister au choc Cameroun-RD Congo.
Justement, un mot sur le championnat congolais de première division qui était à sa 16e journée.
Et dans la zone sud, l'ASV Club a eu raison de Rogelou, 3-1. Plus facile pour le tout-puissant Mazembe, vainqueur d'Océan Pacifique, 8-0 dans la zone nord. Toujours dans cette zone, Sa Majesté Sanga Balende est la première formation qualifiée pour les playoffs. Le club de Moudibaye a eu raison de Don Bosco, 2-1 et consolide du coup sa première place. Et puis du basketball pour terminer avec vous, Tatiana, les résultats de la nuit à NBA, le championnat nord-américain de basketball.
Merci Élisée. San Antonio décroche une 11e victoire consécutive en écrasant leur grand rivaux de Dallas 112-83. Phoenix s'incline face à Minnesota 87-117. Oklahoma gagne 99-74 face à Miami. Indianapolis perd d'un rien 126-129 contre Denver. Et enfin Houston s'impose face à Los Angeles 112-94.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes toujours dans Le Monde aujourd'hui, nous passons au dossier du jour. Au Burkina Faso, l'heure est à l'interrogation et à la prise en charge des blessés de l'attaque djihadiste. 29 morts, dont au moins 14 nationalités étrangères et plus de 150 blessés recensés, pris en charge dans les hôpitaux de la capitale. À travers la ville, le dispositif de sécurité est visible et les enquêtes se poursuivent pour apporter des réponses à cette attaque de Ouagadougou. Retour sur les faits avec Issa Napon, notre correspondant sur place.
Il était déjà 19h30 quand les premiers tirs ont retenti dans l'ambiance de la nuit. Des djihadistes, dont le nombre est passé de 3 à 4 par la suite, font irruption au restaurant pâtisserie Cappuccino qu'ils saccagent à l'arme lourde et légère, faisant sur place une dizaine de morts et de nombreux blessés. Le chemin de trois des assaillants avait croisé 20 minutes plus tôt celui d'un témoin qui n'en revient toujours pas.
Et vous voyez trois personnes qui passent au regard la facture. Là. Trois personnes là, ils ont mis un gros manteau comme ça avec trois kalachnikovs. En même temps, il a appelé 10-10 pour informer qu'il voyait trois personnes opposer Zaka avec les kalachnikovs. Moi, il a dit c'est eux-mêmes qui m'ont appelé. Ok, ils sont comme il dit, ils sont trois, mais ils sont djihadistes, les trois personnes. Ils sont tinclés. Il n'y a même pas pour finir. Les communications avec la police, ils sont passés à tirer. Il a eu la chance, puisque s'ils voulaient tirer, ils pouvaient me tirer. Ils sont passés à côté de moi. Comme ils voyaient, avec le 15 000 cobles, c'est sorti comme ça, trois personnes, avec un gros manteau comme ça.
Les terroristes prennent par la suite des otages à l'hôtel Splendide, situé juste en face du Cappuccino. Parmi leurs otages, le ministre en charge de la fonction publique que les terroristes ne connaissent pas. Les djihadistes vont aussi brûler à la balle incendiaire tous les véhicules garés à proximité et transformer le carrefour en un gigantesque brasier. Dehors, pendant ce temps et à bonne distance, les badauds s'agglutinent en se protégeant des balles qui sifflent derrière des bâtiments en construction. À chaque flash de photo, les djihadistes répondaient par des tirs nourris. Des témoins s'énervent et tentent d'empêcher ceux qui sont les plus en colère de foncer vers les terroristes. Doucement, doucement, n'y va pas mon frère, je vais y aller, j'irai, si je meurs, vous prierez pour moi. Non, reste, reste, la gendarmerie est devant. Le théâtre des opérations sera plus tard bouclé et un assaut de plusieurs heures lancé avec l'aide des forces spéciales françaises et américaines pour venir à bout des terroristes. Cependant, les enquêtes, tout comme l'opération de sécurisation des lieux et de toutes zones stratégiques de la capitale, se poursuivent pour comprendre toutes les ramifications et les complicités, et cela au soulagement des populations encore sous le choc. Issa Napon, Ouagadougou, VOA Afrique.
Réajustement ministériel au Mali, le gouvernement compte désormais 32 membres, 6 femmes contre 5 dans l'équipe précédente. Parmi les trois ministres sortants, celui du développement rural et secrétaire général du parti présidentiel. Pour les Maliens, ce réajustement ne change rien car l'équipe reste quasi identique. Et à Bamako, on ne comprend pas non plus le départ du ministre de l'économie. Élément de réponse avec Kassim Traoré.
La presse malienne avait annoncé le changement de gouvernement au Mali. L'opinion nationale s'y attendait. Mais le départ de trois ministres ne semble pas satisfaire les Maliens. Gaoussou Boiré, étudiant à l'université de Bamako.
Quand on regarde depuis le début de l'investiture du président jusqu'à maintenant, c'est toujours les mêmes personnes qu'on voit à la télé, c'est toujours les mêmes personnes qui sont nommées au poste ministériel. Sinon, bon, on ne connaît pas personnellement les nouveaux rentrants, mais les sortants quand même, j'ai pas été vraiment satisfait de leur passage.
Les quatre rentrants sont Koniba Sidibé, qui s'occupera de la promotion des investissements et du secteur privé. Nango Dambélé va à l'élevage et à la pêche. Kassoum Donan s'occupera de l'agriculture. Professeur Assetoufoune Samake, épouse Migan, sera à la recherche scientifique. Le gouvernement compte 32 membres contre 31 pour l'équipe sortante, dont 6 femmes. Amadou Maïga, journaliste.
Je m'attendais pratiquement au départ d'une dizaine de ministre, en tout cas vu la situation du pays. Donc sur ces deux points, vraiment, je suis resté sur ma faim. Sur les trois départs, il faut reconnaître qu'il y a deux poids lourds qui ont beaucoup pesé.
Le départ du ministre du Développement Rural du gouvernement, bien qu'étant une surprise, parce qu'il est le secrétaire général du parti au pouvoir, est bien apprécié par Abdul Moumin Bokoum, communicateur.
Ça m'a étonné que Tereta n'est plus du gouverneur. Je pensais qu'il était l'homme intouchable, il pouvait pas, il allait finir les quinquennats avec Ibeka, ma grande surprise. Je pense que les ministres auront la liberté maintenant de bien travailler, parce que la personne qui empêchait les autres ministres de cette Tereta, il voulait RPMiser le gouvernement, le cabinet. Donc voilà que le chef du RPMiser est parti maintenant. Je pense que les ministres sont libres de proposer les chargés de mission, les conseils vont travailler librement.
Les Bamakois n'ont pas compris le départ du ministre de l'économie et des finances. Lui qui vient juste de défendre le budget 2016 du Mali, Koniba Daouda Guindo, travailleur sociaux.
C'est le ministre, c'est un remaniement qui m'a surpris en réalité. Mais par rapport aux autres, il était temps, parce que depuis le début, ce sont les mêmes personnes qui sont là. Notre problème, c'est pas le gouvernement, ni quoi. Il faut choisir les hommes qu'il faut à la place qu'il faut.
Le troisième sortant, Maître Mamadou Gaoussou Diarra, a demandé lui-même son départ du gouvernement. Il veut se consacrer à ses activités professionnelles. En tout cas, le RPM a tenu à son siège une assemblée générale pour saluer leurs camarades, le désormais ancien ministre du Développement Rural Boukari Tereta, pour mission accomplie. Le parti au pouvoir a pris acte de la reconduction de Modibo Keïta comme premier ministre du Mali. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
La diplomatie tchadienne est en marche. Plusieurs cadres tchadiens intègrent ces dernières années les organisations internationales après plusieurs décennies. La dernière en date est la nomination du docteur Toupta Boguena, ex-ministre de la Santé publique, au poste de secrétariat exécutif de l'ABN, autorité du bassin du Niger. La correspondance est signée André Kodmajinga.
Les chefs d'État et de gouvernement des pays membres de l'ABN, autorité du bassin du Niger, ont honoré le Tchad. Tous ont porté leur choix sur Dr Toupta Boguena comme nouvel secrétaire exécutif de l'organisation au 11e sommet de l'ABN tenu le 8 janvier dernier à Cotonou, au Bénin. Cette nomination vient allonger la liste des Tchadiens qui ont été promus au poste dans les organisations internationales et sous-régionales. Le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères et de l'intégration africaine, Moussa Dago Mahamat, se réjouit de cette nomination, qui, selon lui, est une reconnaissance d'un pays stable et qui contribue de manière effective à la résolution des problèmes sur le continent.
Les troubles que le Tchad a connus pendant des années, 3-4 décennies, ont fait que le placement des cadres dans les organisations internationales n'a jamais été une préoccupation. Avec la stabilité retrouvée, avec la confiance que le Tchad inspire, désormais, les choses ont changé et de plus en plus, les Tchadiens par eux-mêmes ou le gouvernement fait en sorte que les Tchadiens aient la place qu'ils méritent dans les organisations internationales. Le Tchad a été pendant longtemps absent de ces organisations, alors lorsqu'il présente un candidat qui a les compétences nécessaires et avec toute la réputation que le Tchad traîne depuis un certain temps, évidemment, l'élection ou la désignation du Tchadien est plus aisée.
La nouvelle secrétaire exécutive de l'ABN, Dr Toupta Boguena, s'engage à traduire dans les faits les conclusions issues de ce 11e sommet, notamment le plan opérationnel 2016-2024, un plan d'investissement pour le renforcement de la résilience au changement climatique.
Ma nomination ajoutée à celle de mon compatriote Mamad Saleh Anadif à la tête de l'AMUNISMA annonce bien évidemment des perspectives meilleures pour les cadres tchadiens. Nous ferons de notre mieux pour que la lutte contre la pauvreté, la sauvegarde des écosystèmes naturels et le renforcement de la coopération entre les pays membres, raison d'être de l'ABN, soit une réalité pendant notre mandat. De par sa mission, l'ABN a déjà des projets qui vise la protection des écosystèmes naturels. Nous nous inscrivons dans la continuité des actions déjà entreprises par nos prédécesseurs, avec le soutien des pays membres et de tous nos partenaires, pour parvenir à relever ce défi, à savoir la protection des espèces, qui n'est qu'un élément parmi tant d'autres.
Dr Toupta Boguena prendra officiellement fonction le 21 janvier prochain. André Kodumadjingar Ndjamena, La Voix de l'Amérique.
L'ONU dénonce des massacres ethniques, des charniers et des viols collectifs au Burundi. Selon le haut commissaire des Nations Unies, un effondrement complet de l'ordre public est imminent à Bujumbura. Nicolas Pinault a joint Adama Dieng, conseiller spécial de l'ONU pour la prévention du génocide.
C'est une dégradation logique qui, fort heureusement, semble arriver aussi au moment où les autorités burundaises elles-mêmes acceptent d'avoir un dialogue inclusif. Je crois que cela est à saluer, mais il faut impérativement que toutes les parties s'engagent à mettre un terme à la violence. Parce que, tout simplement, de jour en jour, nous continuons à voir des crimes impunis et cela ne saurait faciliter la situation.
Le rapport parle d'un délitement de l'ordre public. Est-ce que cela vous étonne ?
Absolument pas. Vous savez, nous sommes entrés dans une phase où il y a plusieurs groupes armés. On ne sait pas qui est derrière quelle opération. Et c'est en cela que nous sommes inquiets. Et c'est pourquoi j'ai depuis toujours réclamé qu'il y ait une enquête indépendante sur toutes ces atrocités pour qu'on puisse en identifier les auteurs et les déférer devant la justice. Ceci dit, je me suis également réjoui, comme le haut commissaire, de la récente demande faite par le ministre de la Justice au procureur général de Bujumbura d'enquêter sur les allégations de charniers. Je crois que c'est la bonne voie. Et aujourd'hui, je ne peux qu'applaudir à la décision des autorités d'accepter un dialogue inclusif avec toutes les parties.
Compte tenu de la crise burundaise, de nombreux observateurs ont souvent agité le spectre du génocide. Est-ce que c'est un scénario probable selon vous ?
La crise est essentiellement politique. Malheureusement, nous n'excluons absolument rien et c'est pourquoi nous invitons toutes les parties à faire preuve de patriotisme, à comprendre qu'aujourd'hui, plus que jamais, il faut retourner autour de la table. Et c'est en cela que je dis bravo pour que les pourparlers s'engagent sans condition et que l'on puisse tourner cette page assez triste de l'histoire burundaise.
C'était Adama Dieng, conseiller spécial de l'ONU pour la prévention de génocide, joint par Nicolas Pinault.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington, une fenêtre sur le monde.
Les sanctions contre l'Iran avaient été adoptées depuis 1979 par les États-Unis, 2006 par l'ONU et 2007 par l'Union européenne. Elles ont eu des répercussions considérables sur l'économie iranienne. L'accord sur le nucléaire iranien représente aujourd'hui la victoire de la diplomatie sur la guerre, selon le président américain Barack Obama. Écoutons à ce sujet le professeur Jean-Emmanuel Pondy, ancien directeur de l'Institut des relations internationales du Cameroun et actuel secrétaire général de l'université Yaoundé 1. Il est au micro de John Lyndon.
C'est une étape très importante parce qu'il ne faut pas oublier que ça fait quand même 37 ans qu'il y a eu prise d'otage à l'ambassade américaine à Téhéran en 1979. Donc je pense que c'est un retournement diplomatique important, mais surtout ça a des retombées naturellement économiques de grande envergure également. De nouveaux produits pourront rentrer en Iran et l'Iran pourra également certainement être sur le marché financier international vu différemment. Il y a aussi la question du pétrole iranien, bien sûr, qui va être de nouveau disponible pour la vente internationale, ce qui pourrait faire entrer des devises importantes à l'Iran et en tout cas désenclaver économiquement, financièrement et pourquoi pas psychologiquement aussi l'Iran. Donc ça remet l'Iran dans le concert des nations et sur la scène internationale comme un acteur important.
Est-ce que le flux d'argent en Iran ne va pas faire peur à Israël? L'Iran pourrait utiliser cet argent pour financer le Hezbollah, par exemple, ou alors d'autres mouvements terroristes?
Oui, il est évident que le discours iranien vis-à-vis d'Israël est un discours qui n'est pas très rassurant. Mais je pense qu'entre le discours et l'action, il y aura certainement une grande différenciation. Et les leaders iraniens sont des gens apparemment assez pragmatiques, qui utilisent davantage la rhétorique que l'action qui est suivie de cette rhétorique, de mon point de vue.
Alors, même au niveau des États-Unis, il y a une frange de la population, notamment du côté républicain, qui n'apprécie pas trop cet accord. Votre analyse ?
Bon, c'est normal que les républicains n'apprécient pas par principe ce que font les membres de l'administration démocrate. Mais dans le cas précis, je crois que le président Barack Obama a voulu inscrire son pays dans l'histoire avant de partir, comme il l'a fait avec Cuba.
Un peu plus près de nous en Afrique, est-ce que l'Afrique a un quelconque avantage économique, financier ou diplomatique à tirer de cette de lever des sanctions contre l'Iran?
Bon, mais il faut remarquer que l'Iran n'est pas un pays arabe, c'est un pays perse. Donc je crois que, étant aussi chiite, nous avons beaucoup de problèmes, comme vous le savez bien ici en Afrique, avec la sponsorisation d'un certain nombre de groupes terroristes, malheureusement, par des pays sunnites aussi. Et ceci peut peut-être introduire une plus grande variété et peut-être ouvrir davantage l'aspect de sponsoring du terrorisme par certaines puissances sunnites.
C'était Jean-Emmanuel Pondy, joint par John Lyndon. C'est la fin de cette édition. Merci à Anne Albertson et à la rédaction. Bonne journée sur VOA Afrique.